Marie-Christine Gamberini est aussi avec nous. Tchernobyl, ça fait 39 ans. Tchernobyl, ça a été aussi la base donc, du collectif ce Stop Nogent, c'était là où tu étais ?
Oui, c'était voilà. Stop Nogent.
Voilà.
Le collectif Stop Nogent n'existe plus. Et maintenant, il y a le collectif contre l'ordre atomique à Paris. Mais Tchernobyl, c'était il y a 39 ans et c'est depuis 39 ans. Il y a une actualité, une permanence des contaminations locales, des effets locaux sur la santé, des personnes qui habitent sur place, mais aussi qui nous concernent tous par différents biais. Par exemple, on en a beaucoup parlé il y a quelques années, un peu moins récemment, mais je pense que ça ne s'est pas terminé. Il y a régulièrement des feux de forêt dans la région qui relancent la radioactivité qui est accumulée sur place dans l'atmosphère. Il y a notamment une forêt qui s'appelle la forêt rousse parce que toutes les aiguilles de pin sont devenues rousses. Et qui est tellement contaminée que les arbres ne se décomposent pas, parce que les micro-organismes ne peuvent pas vivre là. Donc à chaque fois qu'il y a des feux dans ce type d'endroit, tout ça repart dans l'atmosphère et la haute atmosphère et continue à nous arroser périodiquement. Il y a aussi d'autres mécanismes par lesquels on continue à en bénéficier tous.
Il y a eu récemment... Bénéficier est très ironique.
Oui, si tu veux, oui, mais écoute, c'est un partage.
N'est-ce pas ?
Je pense au livre que Kate Brown, l'historienne américaine Kate Brown, a sorti il y a quelques années qui s'appelle « Tchernobyl par la preuve », qui est beaucoup plus épais et moins littéraire que le livre de Cécilia, mais que je vous recommande aussi. Où elle a eu accès à des archives ukrainiennes qui avaient été ouvertes pour la première fois et qui se sont d'ailleurs refermées presque aussitôt. Je ne sais pas si c'est un effet de l'auteur. Elle avait aussi travaillé sur le site de Hanford aux États-Unis et elle a vraiment bossé dans le créneau où les archives étaient accessibles et de nouveau elles ont été reclassifiées. Bref, et elle explique entre autres que... Les Ukrainiens de la région et les Biélorusses de la région qui avaient l'habitude de consommer beaucoup de myrtilles, de champignons, de fruits des bois, ont bien compris que c'était mauvais pour leur santé, mais continuent à récolter les myrtilles pour le plaisir et puis aussi pour les vendre parce que ça leur fait un complément de revenus, il n'y en a pas tellement dans la région. Et donc, ces myrtilles sont passées au compteur Gégère, les lots de myrtilles, et séparées en plusieurs lots, celles qui sont peu contaminées ou pas contaminées, celles qui sont un peu contaminées, celles qui sont très contaminées. Et tous les lots sont achetés, pas au même prix, mais tous les lots sont achetés. Et ensuite, tout est mélangé pour faire une espèce de moyenne. Donc, quand vous avez des myrtilles qui viennent de pays de l'Est, de Pologne, etc., puisqu'elles font quelques détours, les myrtilles surgelées, notamment les myrtilles sauvages, c'est un peu la loterie de savoir si vous avez droit à la myrtille au plutonium ou pas. Il y a plein d'autres mécanismes comme ça qui font que, de toute façon, c'est toujours... C'est toujours, et ça va le rester pendant des siècles, voire des millénaires, la radioactivité qui est sortie du réacteur, elle ne va pas disparaître magiquement. Elle continue à circuler sur la planète.
Cécilia voulait te dire.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, ce qui s'est passé le 14 février, quand Poutine a bombardé Tchernobyl...
Alors, juste, je t'arrête, on n'est pas encore en l'état actuel de choses. Il n'y a aucune preuve tangible que c'est Poutine. On peut le supposer.
D'accord, pardon, excusez-moi.
Mais tout ce qu'on
pardon,
sait, on désolé. Est sûr et certain désolé. Qu'effectivement, qu'une bombe est tombée dessus.
Voilà, donc, pardon.
Je sais.
Non,
j'ai été voir justement la question et j'ai dit la même phrase que toi et quelqu'un m'a fourni cette réponse que je viens de te faire et j'ai fini par dire ouais t'as raison. Je suis
c'est
obligée.
Intelligent.
Si on veut être, enfin disons que si
non,
c'est les faits, vrai, les faits, soyons dans les faits. Quoi, voilà.
C'est vrai. Puis c'est bon.
Mais après, la bombe est tombée. Il hein. y a une bombe
voilà,
qui a percé.
Qui est tombée, quoi qu'il en soit, en parlant de l'héritage et en rebondissant sur ce que tu disais, Marie-Christine, c'est cet héritage-là, on l'a aussi parce qu'au niveau géopolitique, en fait, on se retrouve avec un un gros problème. Parce que donc, le monde entier a collaboré pour créer cette arche de confinement qui a coûté des milliards d'euros. Et puis là, ça a brûlé en trois fois rien de temps. Enfin, la membrane de protection. Je pense pas qu'on s'imaginait quand même qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait bombarder Tchernobyl, quoi. Et là, donc on a voilà, on a ça quoi.
Enfin, toi, tu t'imaginais pas qu'on pouvait bombarder Tchernobyl. Toi, tu te l'imaginais
pas. Faut être quand même.
Parce que je reviens, si tu veux, à, donc c'était il y a un peu plus de 15 ans. Stéphane Lhomme, donc notamment à ce moment-là, porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, il ne l'est plus depuis, hein, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a simplement relayé une information qui venait de l'intérieur de EDF, hein, Électricité de France, d'accord. Et EDF avait fait une étude. Alors, pour te dire, l'information avait prouvé que si un avion venait à se cracher contre une centrale nucléaire française, bah, c'était pas protégé. Et c'était peu de temps après les tours jumelles avec les deux avions qui sont crachés dessus. Ce truc-là, il n'y avait pas besoin, je suis désolée, il n'y avait pas besoin de faire des ça tombe un peu sous le sens, si tu veux, que nos centrales ne sont pas... Et c'est juste que pour avoir dit ça publiquement, puisque EDF disait que, etc., ça prouvait que, effectivement, EDF même dit que les centrales nucléaires françaises ne sont pas suffisamment protégées par un avion, juste un avion de ligne. Voilà, un kamikaze qui... Voilà, etc. Et à partir de là, Stéphane Lhomme a eu une perquisition des plus sévères, un traitement comme si c'était le terroriste de dingue, etc. Et ça a été d'ailleurs... il a énormément morflé, comme si, comme s'il avait je sais pas quoi fait, alors qu'il a dit une chose évidente. Je dis ça parce que ça remonte déjà à pas mal d'années. Et donc, que toutes les choses qui confinent le nucléaire puissent être attaquables et que ça perce, perso, j'en suis tellement convaincue que j'en suis effrayée depuis très longtemps. C'est pour ça que je réagis. Donc, si t'avais l'idée que personne allait l'attaquer, je trouve que c'est chouette.
Ah non, non,
c'est optimiste que moi, quoi.
C'est-à-dire, c'est pas que j'avais l'idée que personne allait l'attaquer. On est d'accord que, c'est un petit peu maladroit ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il faut il faut aller à un niveau quand même de
cynisme,
de haine de l'humain et de la nature et de la vie en général pour en arriver à faire ça, parce qu'on est quand même le cul sur une bombe d'un niveau qui est capable de nous anéantir toute l'Europe, quoi. On est assis sur ça. Alors je sais pas, comme tu es spécialiste, Marie-Christine,
je suis pas spécialiste, mais le problème avec l'arche, bon, évidemment, c'était une très mauvaise idée qu'une bombe soit envoyée à cet endroit ou dans ce secteur, mais il ne faut pas perdre de vue que la majeure partie de la radioactivité, elle est plus sous l'arche, et qu'une des fonctions fondamentales de l'arche, c'était de permettre la poursuite de l'exploitation du reste des réacteurs. Alors, je sais que Tchernobyl est réputée être la plus grave des catastrophes nucléaires qu'on ait eues jusqu'ici. Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'il y avait 4 réacteurs sur cette centrale. Les liquidateurs se sont aussi battus pour éviter les liquidateurs au sens large, les mineurs du Donbass qui sont venus creuser un tunnel en dessous, etc., etc., se sont beaucoup battus pour éviter la propagation de l'incendie aux autres réacteurs, notamment aux plus proches. Et que, quand on parle de « faut être fou pour bombarder une centrale », moi je trouve qu'il faut être un peu cinglé pour continuer à exploiter 3 réacteurs sur une centrale après ce qui s'est passé là. Et plus encore, continuer à en construire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Ukrainiens, après la chute de l'URSS, ont continué à construire des réacteurs et se sont retrouvés avec la plus grosse centrale du monde, comme on le sait maintenant, mais aussi, peut-être à égalité avec avec une des Japonais, mais on se retrouvait avec plus de réacteurs qui n'en avaient avant la catastrophe de Tchernobyl, ce que moi je trouve un peu fou et qui sont aussi en train de payer maintenant et qui, à mon avis, s'expliquent aussi par des ambitions militaires. Enfin, c'est peut-être pas... C'est un peu compliqué, je vois l'heure d'en parler maintenant, mais bon. Donc, je voulais aussi, sur les liquidateurs, pour revenir à l'actualité, une actualité relative, Ces liquidateurs n'ayant pas tous eu la bonne idée de mourir au cours des décennies qui ont suivi, les dirigeants ukrainiens commençaient à en avoir assez, à trouver que ça coûtait cher. Et il avait été question ces dernières années de leur supprimer leurs pensions et de tourner la page. Et d'ailleurs, quand le président Zelensky est rentré en fonction, une des premières annonces qu'il avait faites, c'était son intention de transformer Tchernobyl en une espèce de grand Disneyland nucléaire où on allait attirer beaucoup de touristes pour les visites, etc. Bon, je ne sais plus si c'est le Covid ou d'autres choses qui ont ralenti ou mis un terme momentané à ce projet, mais il y avait une espèce de volonté de banalisation, de sortir de cette histoire, de passer à autre chose, y compris au détriment des liquidateurs. Qui, alors, on imagine que s'ils n'étaient pas morts, c'est que ce n'était pas si grave. C'était tous, à l'origine, des hommes assez jeunes. Pour donner un exemple qui n'est pas technique, je voudrais dire un mot du professeur Nesterenko, qui était un spécialiste du nucléaire militaire et qui a viré sa cutie au moment de la catastrophe et qui a été dans le premier hélicoptère qui a survolé la centrale. Je crois qu'ils étaient trois de mémoire. Les deux premiers passagers, enfin le conducteur et l'autre passager, le pilote et l'autre passager sont morts assez rapidement. Nesterenko, lui, a vécu encore pendant une vingtaine d'années où il a mis au point des systèmes pour essayer de détecter le césium chez les enfants, une cure de pectine pour les détoxifier, etc. Il vivait apparemment normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les cellules de son intestin étaient complètement détruites, ce qui fait qu'il avait toujours sur lui, dans ses déplacements, partout, une petite bouteille d'eau. Il se nourrissait à peu près normalement au sens où il ingérait les aliments pour récupérer des vitamines, des sels minéraux, etc. Et puis, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, il se faisait vomir parce qu'il n'était pas question que ça passe de l'estomac à l'intestin. Donc, il avait une bonne connaissance de son corps, de la radioactivité, etc. Moi, je vois assez peu de personnes qui seraient prêtes à vivre dans ces conditions après avoir subi une catastrophe nucléaire. Donc, sans rentrer dans des choses très techniques, hein, juste pour donner un peu de corps, comme tu l'as fait toi, Cécilia, à ce genre de situation et éviter les banalisations.
Juste peut-être rajouter, faire un petit point peut-être sur l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus, qui est la seule association, seul organisme de radioprotection indépendant qui travaille pour et avec les populations biélorusses dans les zones contaminées. Donc, et que tu as donné justement ce mot, la pectine de pomme, qu'en l'état actuel des choses, on sait que c'est une des rares choses qui, quand les gens ont été vraiment extrêmement contaminés par des radionucléides, et notamment les enfants qui développent très jeunes des maladies de très très vieux, en fait. Ils ont des pathologies habituellement, on n'a qu'à passer 80 ans, quoi. Donc, c'est des petits-enfants. Et donc, la pectine de pomme, notamment. Enfin, bon, allez voir. Donc, en tout cas, il y a le site de cet enfant, tchernobylbelarus.org.
C'est une association qui est donc... C'est le fils de Nesterenko qui a repris le laboratoire là-bas. Et c'est la seule association dans ce pays qui reste, puisque toutes les autres qui existaient... ont été supprimés par le gouvernement avec l'aide des Français qui sont venus faire des recherches là-bas, qui ont dit qu'il fallait pas soigner les gens. Enfin bref, je passe les détails. Et donc, effectivement, le partenariat avec Enfants de Tchernobyl Bélarus est important, d'autant que c'est une de nos seules sources de données scientifiques actuellement. Ce sont les seuls à faire encore, ou à transmettre encore des recherches de scientifiques bélarusses et ukrainiens. Donc c'est aussi essentiel pour notre connaissance de ce qui se passe là-bas.
Après, tu parlais aussi des aliments contaminés, à savoir que bon, il y a énormément de risques. Allez voir notamment sur le site de la CRIRAD, CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui a été créée juste après Tchernobyl, hein, donc il y a 39 ans, et sur lesquels j'étais voir ce matin. Et vous pouvez acheter votre propre compteur GGR pour à peine 480 €. Voilà, sachez-le. Mais c'est terrible à dire, mais est-ce qu'on ne va pas arriver, notamment en France, pays le plus nucléarisé par tête d'habitants, hein, je veux dire, même la Chine ne nous bat pas quoi, là-dessus, ni les États-Unis, c'est de la folie en fait.
Même le Japon.
Le Japon, et pourtant, hein, ils ont quand même Fukushima, quoi. Et donc, c'est chaud patate. Et bon, et donc, mais cette idée de dire, bah, on est. Parce que quand on entend ça, on se dit, punaise, moi, je ne sais pas ce que je mange. Et bah, en fait, il y a moyen de le comptabiliser. C'est marrant que les pouvoirs publics ne le fassent pas pour nous, en fait, de vérifier ce qu'il y a comme taux de radioactivité sur ce qu'on mange.
Alors, oui,
sur ce qu'on ingère.
Peut-être aller voir les Japonais plutôt pour ce qu'on ingère, parce que je sais qu'ils ont mis au point des appareils de mesure pour la nourriture. Le compteur GGR, c'est pas génial pour les salades. Ah. Donc peut-être voir ce que font les Japonais, qui d'ailleurs n'ont en ce moment qu'une douzaine de réacteurs en service sur la cinquantaine, parce qu'on imagine toujours que la situation là-bas est revenue à la normale.
Entre guillemets normale.
Voilà, ou que tout est reparti. Pas du tout, il y a pas loin d'une trentaine de réacteurs qui sont fermés, et ceux qui pourraient rouvrir, c'est encore en débat. Et voilà, et c'est rien de. Les Japonais ne se remettront jamais de la catastrophe de Fukushima, et beaucoup ont déjà émigré. Le pays est vieillissant, se débrouille comme il peut, mais c'est. Voilà.
Oui, c'est important aussi de rappeler aux gens qui sont un peu jeunes et qui nous écoutent qu'il y a 20 ans, hein, avant Fukushima, le Japon était quand même dans le top 5 quoi, des pays les plus modernes, etc., du monde, et croissance et blablabla, tout ça. Et aujourd'hui, ben, effectivement, ça a été une grosse chute quoi, là-dessus. Mais aujourd'hui, on ne pense pas au Japon, on pense davantage à la culture et au manga aujourd'hui que sur effectivement l'économie et la technologie, mine de rien. Et tout ça, c'est cette catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, parce qu'on va arriver vers la fin de l'émission. Marie-Christine, je te laisse ton mot à toi, momentané, de la fin, puisqu'on sait que tout ceci est éternel. Oui.
je ne sais pas que dire, sinon qu'en matière de gravité, suivez aussi ce qui se passe au Japon. Encore une fois, à Tchernobyl, les trois réacteurs ont continué à fonctionner. À Fukushima, tous les réacteurs de la centrale ont été accidentés, enfin les quatre qui fonctionnaient. Et il y a eu trois syndromes chinois, c'est-à-dire trois réacteurs qui se sont... trois cœurs en fusion qui se sont enfoncés dans le sol et qu'on ne sait pas comment récupérer.
Et qu'ils continuent, en fait, à l'heure où on parle. En fait.
Voilà,
ils sont toujours vivants, hein,
les contaminations sont... à plus long terme, sont plus dans le sol et vont se disperser dans la mer. C'est vrai qu'à Tchernobyl, ça a été plus par voie aérienne, plus concentré aussi parce que les autorités ont fait pleuvoir localement pour éviter que ça arrive à Moscou. Et puis, il y avait déjà des contaminations antérieures dans la région du fait des essais nucléaires, etc. Mais bon, là, on se retrouve avec déjà deux catastrophes gravissimes et des tas de sites très pollués par ailleurs. Cécilia, peut-être 18 ans après.
Ben, pour m'être tenue au courant de ce qui se passe en termes artistiques autour de Tchernobyl, je voulais saluer Lucie B, on en a parlé avant de faire l'émission, qui a fait un très très beau travail de clown, de photographie et de témoignage sur la zone, puisqu'elle y est allée.
Splendide, ouais.
Et je voulais aussi remercier Florence, évidemment, qui a été un soutien incroyable pendant toutes ces années pour mon travail littéraire, et Tania, avec qui j'ai beaucoup échangé sur le sujet, et qui, voilà, qui est une espèce de phare... Qui me tient encore, voilà. Oui, on n'en a pas parlé de Tania, donc c'est l'amie de ma mère, voilà, qui est ukrainienne et qui m'a énormément touchée quand elle a lu mon livre. Donc voilà, je voulais saluer Tania, parce qu'on avait ce lien-là toutes les deux, quoi.
Entendu. Et je te rejoins un grand big up à Lucie B. Lucie B, si tu nous entends, j'ai qu'une envie, c'est de te voir revenir ici au micro, ça c'est clair. Lucie B, c'était il y a plus de 20 ans ici, on a fait une spéciale anti-nucléaire, et c'était il y a longtemps, parce qu'à l'époque on enregistrait sur des cassettes audio, hein, d'accord. Donc c'est vous dire, j'ai encore la cassette audio, et je me souviens qu'il y avait trois bons hommes, et Lucie B et moi-même, et Lucie B à un moment donné, elle dit, bah, je ne suis pas anti-nucléaire, pas plus que je ne peux être pour le nucléaire. Je suis ni anti ni rien du tout. Mais par contre, je suis allée à côté de Tchernobyl et Tchernobyl est un fait. Et voilà, moi ça me reste. Voilà, comme Florence.
Bah écoute, je vais conclure en remerciant en vous remerciant toutes les deux pour votre courage à dire ces choses-là qui sont difficiles à dire, difficiles à entendre et en même temps nécessaires. Donc un immense merci à vous de nous avoir accordé ce temps.
Merci, c'était Les Petits Papiers et ce n'est que, qu'une partie du commencement de la suite de Tchernobyl, 39 ans. On se retrouve l'année prochaine là-dessus, je pense. Les 40 ans donneront, je pense, lieu à des événements sans doute importants, à moins qu'une autre catastrophe ait supplanté Tchernobyl dans la gravité des choses. Merci Flore.
Au revoir Fatima.
Salut. Bye bye. On se retrouve en rediffusion le vendredi de
11h à midi sur Canal Sud et de 14h à 15h sur Radio Laura.
Voilà, sur radiolaura.ch et sur www.canalsud.net ou 92.2 Mégazeste sur la région toulousaine et environ. Merci. Ciao ciao.
Ciao.